Découvrez l'auteur derrière les mots dans Parole d'écrivain.
Oui, eh bien, bonjour. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Ranoux pour son livre Le trésor de l'abbaye, publié aux éditions TDO. Je vous avais reçu il y a cela quelque temps pour plusieurs de vos livres. Vous en avez déjà publié 3 ou 4 chez TDO.
Oui.
Voilà, je vous avais reçu notamment pour l'histoire extraordinaire de Juan Ibérico, que vous avez fait paraître en 2019, et l'autre, Les orphelins de grand chemin, en 2021. Et aujourd'hui, je vous reçois pour Le trésor de l'abbaye, donc dans la collection Histoire du Sud, édition TDO. Alors, ce livre se passe au XIIIe siècle, dans notre région toulousaine, et il y a de multiples héros. Il y en a le héros du livre, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnages qui sont très, très intéressants à étudier, et également de décors et de l'environnement qui est propre à cette histoire de Toulouse, de l'environnement toulousain, de tous les villages toulousains, d'une abbaye, bien entendu, puisqu'on en parlera tout à l'heure, de Toulouse. Alors, comment vous êtes venu, disons, la première question, la genèse de ce livre. Comment vous avez l'idée d'écrire un livre sur cette période-là?
Tout d'abord, j'aime bien le XIIIe siècle.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être des réminiscences dans mes gènes, mais c'est vrai que le XIIIe siècle est un siècle qui m'inspire beaucoup. Donc, j'ai écrit déjà plusieurs livres qui se passent à cette époque-là. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, par exemple, il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui. Donc, on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais le climat était très, très favorable au XIIe et XIIIe siècle. Après, par contre, au XIVe, ça s'est vraiment dégradé. Il y a eu des famines, il y a eu la guerre de Cent Ans, il y a eu la peste.
La peste aussi, voilà. Oui.
Mais le XIIIe siècle, ça a été un siècle très intéressant. Donc, pour moi, je me reconnais un peu dans cette époque-là. Et puis, bon, sur Toulouse et les environs, ça a été aussi un siècle très important. Il y a eu la croisade contre les Albigeois. Bon, à part ça, d'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de grands désastres dans la région. Mais la croisade contre les Albigeois, ça a été quand même quelque chose d'important.
Marquant.
Très, très marquant. Et donc, voilà, c'est... En plus, bon, je m'intéresse à l'histoire un peu des petits villages qu'il y a autour de Toulouse. Bon, aussi, Toulouse, la ville elle-même, mais autour de Toulouse, il y a des petits villages qui ont une histoire très forte. Moi, j'habite à côté de Grenade-sur-Garonne. Donc, voilà, je me renseigne un peu partout. C'est devenu un peu mon hobby de rechercher un peu tous les épisodes historiques qui sont passés dans la région. Parce que, bon, je pense que c'est très intéressant de savoir d'où on vient.
Bien sûr. Voilà. Oui, en fait, c'est un roman, mais c'est un roman historique quand même.
Alors, je pars toujours de faits réels.
De faits réels, voilà.
Je suis romancier, je ne suis pas historien, mais avant d'attaquer un livre avec des personnages de fiction, je situe l'endroit où ça va se passer, l'époque où ça va se passer. Et là, à partir de ce moment-là, je me documente dans toutes les directions.
Voilà,
tout ce qui me tombe sous les yeux, que ce soit la télé, que ce soit sur Internet, les livres. J'ai des amis qui sont historiens.
Des archives aussi.
Des amis, j'en ai un notamment qui est un féru d'archives. Donc chez lui, c'est tapissé d'archives partout. Donc si je veux avoir quelque chose sur une époque donnée, sur même presque un jour donné, lui, il a. Voilà. Donc j'essaie d'être au plus près possible de la réalité au niveau historique, mais après, bon, je mets des personnages de fiction qui vivent une vie à eux, et donc ce sont quand même au départ sont des romans. Donc, comme je dis, roman historique, il ne faut pas retenir que le mot historique, parce que dans les salons du livre, il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de roman historique, ils font la moue.
Mais parce qu'ils pensent que...
Ils repensent à l'histoire qu'on leur apprenait à l'école. Oui. ça n'a rien à voir. Moi, comme je leur dis, Les Trois Mousquetaires, c'est un roman historique. Donc,
Bien sûr.
C'est pareil, c'est un roman avant tout, mais c'est basé sur un contexte historique qui est précis et qui est documenté.
Les personnages, disons qu'au départ, vous documentez sur... L'époque du XIIIe siècle, par exemple, et ensuite vous insérez les personnages que vous créez.
Alors, les personnages sont des personnages de fiction.
De fiction.
Je m'inspire quand même des fois de personnages qui ont vraiment existé, parce que dans les documents que je retrouve, il y a quelques anecdotes de gens qui ont vécu à cette époque-là, donc je peux m'inspirer aussi de ça. Et ces personnages de fiction, de temps en temps aussi, rencontrent des personnages historiques.
Historiques,
voilà, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y a le mélange un peu entre la fiction, entre l'imagination et puis la réalité.
Et alors, le personnage principal de ce livre, c'est le fameux Arnon.
Voilà, alors Arnon que de Saint-Subra.
Arnon, là, de Saint-Subra.
Il faut savoir qu'à l'époque, bon, Saint-Subra, c'était une banlieue. Mm-hmm. Donc, c'était de l'autre côté de la Garonne, ce n'était pas dans le bourg de Toulouse. Il faut savoir que la banlieue, l'étymologie du mot, ça veut dire c'est le lieu des bannis. Donc, on utilise toujours le terme de ban quand on publie un mariage, on publie les bans. Oui. Donc, à l'époque, le seigneur, il avait le droit de ban. C'est-à-dire qu'il pouvait rassembler tous les gens sous sa bannière. Donc voilà, le terme de ban se retrouve Et la banlieue, donc, c'était le lieu des bannis. Et je pense que c'est encore un peu le cas, d'ailleurs, par certains aspects.
Et alors, le livre débute bien mal pour Arnon, parce qu'on le trouve d'abord place du Salin, puisque la place du Salin qui est actuelle, et il y arrive une première mésaventure.
C'était un des endroits où on exécutait les gens qui étaient condamnés. Alors là aussi, j'essaye de minimiser, mais de remettre un peu les choses, les pendules à l'heure, parce que quand on parle du Moyen-Âge, on pense que c'était d'une cruauté extrême, que tous les gens, ils étaient pendus, décapités, brûlés. C'était loin d'être le cas. D'ailleurs, quand l'exécution, pourquoi elles étaient publiques à cette époque-là? Parce que le public, les gens qui venaient assister à l'exécution, ils avaient un droit, ils pouvaient faire en sorte que le condamné ne soit pas exécuté. Mmh. On leur demandait leur avis. Donc ils n'étaient pas là juste pour regarder, contrairement à ce qu'on croit. Ils avaient le droit de donner leur avis, donc c'est ce qui arrive d'ailleurs à mon héros.
Et voilà, c'est ce qui lui arrive.
Par exemple, si une femme dans l'assistance s'engageait à épouser monsieur qui a été pendu, il était gracié.
C'est la question que qu'on va poser.
C'est curieux, mais...
Et alors, ce qui arrive à Arnon, puisqu'on me pose la question.
Il faut savoir qu'Arnon, c'est un jeune homme de 18 ans qui est très beau. C'est sûr que bon. Il a trouvé. Mais après, on va voir que c'était quand même intéressé aussi. C'était pas juste pour le garçon lui-même. Voilà. Il y avait derrière un plan.
Et alors, c'était la fameuse Bathilde qui lève la main, qui lui dit, écoutez, donc, je consens à l'épouser à condition de le libérer.
Bathilde, c'est une femme.
Qui est Bathilde?
C'est une femme. C'est la veuve d'un marchand de draps. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en 1272, Toulouse est très en avance sur le commerce du drap. Donc le drap, c'est tout ce qui est tissu. Et donc c'est la veuve d'un grand marchand de drap de Toulouse. Et elle a besoin de quelqu'un de jeune, de dynamique pour se venger de la mort de son époux qui a été tué parce qu'il voulait se présenter en tant que capitoul. Et donc, il y a des gens qui ne le voulaient pas. Donc, voilà, il y avait déjà des exécutions politiques à l'époque.
Alors, et Toulouse était gérée par ce que vous venez de dire, par les capitouls.
Alors, il y a les anciens maires, l'actuel
maire de Toulouse.
Alors, à cette époque-là, en 1275, on ne les appelait pas encore vraiment des capitouls, c'était des consuls.
C'était des consuls.
Voilà, les consuls sont les conseillers municipaux d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, c'était les consuls. Et donc, il y en avait. Alors, Toulouse était partagée entre la cité et le bourg. Donc, le bourg, c'était tout ce qui était autour de Saint-Cernin. La cité, c'était tout ce qui était avant. Et il y avait six consuls par moitié de ville, disons. Ils étaient 12 au total. Et donc, petit à petit, ça s'appelait les capitouls. Le Capitole, ça vient du mot chapitre, d'ailleurs. Oui. Bon, parce que ça marchait un peu comme chez les moines. Ils faisaient des chapitres où ils décidaient. C'était pas des réunions du conseil municipal, mais c'était des chapitres où ils décidaient de l'avenir de la cité. Donc, chapitre, Capitole. Et capitoule.
Alors, cette Bathilde, elle habite à quel endroit? Elle habite à Toulouse même ou à l'extérieur de Toulouse ou...
Non, là, c'est Toulouse,
la cité. Toulouse, la cité. Et elle habite avec un train de vie quand même assez...
Là aussi, on pense que les femmes, à cette époque-là, elles n'avaient pas le droit de cité, mais si. Il y avait beaucoup de femmes qui géraient des affaires importantes, qui avaient... C'était pas du tout misogyne, hein, le Moyen-Âge.
Oui.
Pas comme on le croit, quoi.
Là,
il y a beaucoup de choses sur le Moyen-Âge qu'on a complètement dévoyées. Il faut savoir que le Moyen-Âge, le terme Moyen-Âge, il a été inventé à la Renaissance pour dire, vous voyez, avant c'était des sauvages.
Oui, oui, voilà.
C'est le siècle des Lumières. Non, et c'était pas plus sauvage qu'à la Renaissance. Et donc il y a beaucoup de choses aussi qui ont été... galvaudée.
Oui, elle a son service, par exemple, Émilie, elle a des domestiques.
Oui, à ce niveau-là. C'est une entreprise.
Elle ne vit pas, elle est veuve, mais elle n'est pas seule.
Il y a une entreprise.
Elle a
des ouvriers,
puis,
des employés.
Voilà, une entreprise de drap.
Elle a, comme dans ces grandes maisons, il y a, comment on appelle ça, pas un manager, mais quelqu'un qui gère la maison, l'intendant.
L'intendant.
Et puis elle a une ou deux servantes, voilà, mais bon, c'est pas non plus une princesse, mais bon, c'est quelqu'un qui a une place importante quand même dans la ville. Et donc le petit voleur, là, il se retrouve. Il se retrouve là, au milieu de... Et lui, il est sorti de sa banlieue où il vivait dans la rue, pratiquement. Ça lui fait une drôle d'impression.
Et qu'est-ce qu'elle lui confie une tâche?
Elle veut se venger de la mort de son mari. Et elle soupçonne un capitoul qui lui a été élu et qui aurait commandité, disons, le meurtre de son mari. Et elle veut que le jeune homme qui a déjà cambriolé ce capitoul, c'est pour ça qu'elle l'a pris, qui revienne chez lui et qu'il essaye de trouver des documents qui pourrait prouver que c'est lui le coupable. Mmh. Ben, elle veut se venger.
Elle veut se venger.
Donc elle a trouvé cette astuce. Comme elle sait qu'il connaît la maison, qu'il est déjà rentré, elle se dit il va faire pareil, il va me ramener, pas les bijoux, c'était pas ce qui l'intéressait, mais les documents qui pourraient l'incriminer.
Et il accepte volontiers, lui.
Alors il n'a pas trop le choix.
Pas trop le choix, parce que sinon...
Ou elle le remet à la justice. Voilà. Donc, oui, il accepte ou il s'est fait rependre.
Oui, d'autant plus qu'il était sur cette place avec deux autres personnes. Là, et
oui,
qui, eux, sont, ont été...
Le coup qu'ils avaient fait chez le Capitoul, ils étaient trois. Donc, il y avait deux adultes, disons, deux personnes suffisamment âgées. Et lui, le petit jeune, là, qui participait. Donc, les deux autres, ils ont été pendus sans problème. Et lui, il en a réchappé. Voilà.
Oui, donc...
Alors, il faut savoir aussi que, à l'époque, on les pendait à la place du Salin, mais après, les corps, on les mettait. Là aussi, c'est. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Salade. Donc, la Salade, c'était le. Comment on appelle ça une espèce de gibet où, quand les gens étaient pendus, on les accrochait au gibet et ils y restaient jusqu'à ce qu'ils pourrissent sur place, jusqu'à ce que. Comme les faisans, jusqu'à ce qu'ils tombent. Donc, c'était, les fourches patibulaires.
Les fourches patibulaires.
Voilà. Donc, les gens, ils étaient pendus, mais ils ne restaient pas sur la place. Et on les amenait. Alors, les fourches patibulaires, à cette époque-là, elles étaient du côté d'Ampalo. À la sortie de la ville.
Très bien, bien. Je crois que nous allons passer à notre pause musicale. Et vous avez choisi, je crois, comme...
Ben moi, il y a quelques années, là, j'ai été un peu surpris par une chanson et une chanteuse, Clara Luciani, qui chantait la Grenade.
Bon, ben nous allons l'écouter. Nous l'écoutons.
Déguisé en main.
Oui, eh bien, nous revenons à Claude Ranou et au trésor de l'abbaye. Justement, vous allez nous lire un extrait et on va parler de cette abbaye, mais vous allez commencer par nous lire un extrait de votre livre au sujet de cette abbaye.
Voilà, alors dans le livre, c'est le moment où il va découvrir notre petit voleur là qui va être, envoyé à cette abbaye pour un travail et va découvrir l'abbaye. Donc je vous lis le passage. Et soudain, ils débouchèrent sur une large zone dégagée où des hommes labouraient. Une paire de bœufs tirait une charrue munie d'un soc en fer. Des femmes ramassaient des brassées d'herbe dont elles faisaient de grands monticules. « Sois le bienvenu sur le domaine de Grand Selve !» s'exclama frère Géraud. Arnaud s'arrêta de marcher, considérant les champs cultivés, les cabanes, le branchage, les laïcs au travail qu'aucun clerc ne supervisait. « Où donc est votre abbaye, mon père? Que font ici tous ces paysans ?» « Nous y sommes presque. Ces laboratoires sont à son service. Après le prochain virage, tu verras le prodige que Dieu nous a permis d'accomplir. » Et la surprise fut à la hauteur du discours quand, au détour du chemin, le jeune homme découvrit l'abbaye qu'un soleil déclinant à l'ouest baignait d'une lumière irréelle. La vision était extraordinaire depuis la hauteur où il se trouvait. Derrière un mur qui longeait le ruisseau de Anadès, de nombreux bâtiments à deux niveaux se resserraient autour d'un cloître que l'on devinait par le vide qu'il laissait entre les toitures de tuiles roses. Dominant le tout, une immense église s'allongeait dans le sens du vallon, surmontée par un haut clocher pointu inspiré de celui de Saint-Cernin. Sur la façade du transept et dans le pignon gauche, des roses à colonnettes rayonnantes renvoyaient la lueur orangée de l'astre. Devant la porterie, vers laquelle ils se dirigeaient, se pressaient des charrettes, des cavaliers, des hommes ordinaires et des religieux, tout un monde laborieux uni pour la prospérité du lieu. Ils passèrent la grande porte sans être arrêtés. Il y eut juste la réflexion d'un moine chargé de noter les passages sur la tenue peu conventionnelle de frère Géraud. Une grande cour s'ouvrit devant eux et un homme vint à leur rencontre pour conduire le cheval vers la longue écurie se trouvant sur la droite. Arnaud lui céda volontiers la bride, tandis que son compagnon se laissait glisser au sol.
Très bien. Oui, alors, justement, puisque nous parlons de l'abbaye, dans quel but se dirige-t-il vers l'abbaye? Pourquoi se trouve-t-il dans cette abbaye du Grand Selve, hein?
Voilà, donc, Arnaud, comme je vous l'ai dit, il était chargé d'une mission pour venger Madame Bathilde. Mm-hmm. Mais en fait, bon, il rentre dans une entreprise, c'était une entreprise de draps. Donc, elle lui confie une mission d'aller livrer du drap à l'abbaye. Et c'est là qu'il va faire la connaissance avec l'abbaye. Et c'est là qu'il entend parler, il avait entendu parler auparavant, mais il entend surtout parler du fameux trésor de l'abbaye de Grand-Selle, voilà. Puisqu'il y a un trésor, effectivement, et que ce trésor existe toujours. Il est à Montauban, dans la cathédrale. Donc, vous voyez, c'est pas de l'imagination, c'est historique.
Là, c'est pas fiction.
Alors, le trésor, ce sont des châsses, des reliquaires en or, avec pierres précieuses. Donc, il était un certain temps dans l'église de Bouillac, qu'on pouvait le visiter, mais comme l'église menace de s'écrouler, ils l'ont mis à Montauban.
Et alors donc, il va vivre avec en communauté avec les moines.
Il va faire sa mission, d'amener des draps et tout ça dans l'abbaye elle-même. Et bon, il va faire connaissance avec le fameux abbé.
Oui.
Donc, il faut savoir que l'abbaye de Grand-Selve, on peut en dire un mot, ça a été la plus grande abbaye cistercienne du sud de la France. Il y a eu jusqu'à 800 moines. Ça a été quelque chose d'énorme. C'est elle qui a créé Fontfroide à côté de Narbonne.
Oui.
Elle a créé aussi d'autres abbayes en Espagne. Et donc, il va découvrir tout ça. Et ça va être, pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il sort de sa banlieue où il n'y avait rien. Et là, il tombe avec des gens qui sont... Et donc, les fameux abbés de l'abbaye de Grand-Selve, il y a eu des abbés célèbres. Il y a eu Mazarin, par exemple, qui, avant a été abbé de Grand-Selve. Bon, il n'y a pas été souvent, mais il était quand même abbé de Grand-Selve. Il y a eu aussi l'abbé Amaury, qui a dit à Béziers,
tu es tous,
Dieu reconnaîtra le sien. Voilà. C'est célèbre, mais pas du bon côté. On le connaît. Donc, ça a été une abbaye très, très importante, et qui a été rasée à la Révolution française, malheureusement. Mais... Elle a été rasée, mais on a récupéré les archives et on a récupéré le trésor. Contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres abbayes où tout a disparu. Là, il se trouve qu'à l'époque, après la Révolution française, la mairie de Bouillac, donc on a créé une mairie à Bouillac, le village voisin, et se sont opposés à destruction des archives, au vol des... ils ont vraiment contribué à sauver le maximum de choses de cette abbaye. Et après, donc l'abbaye a été détruite et l'église elle-même a été détruite un peu plus tard, quelques années après. C'était dommage parce que c'était une église qui faisait plus de 100 mètres de long et 20 mètres de large. Donc, je ne sais pas si vous voyez... c'est difficile. Aujourd'hui, on la voit encore parce qu'on a gardé les fondations.
Les fondations.
Voilà, l'emplacement. Et aujourd'hui, il y a encore une association qui s'occupe de cette abbaye, qui essaye de la remettre en valeur historiquement et qui le fait visiter d'ailleurs. C'est quand il y a des gens qui veulent la visiter et qui explique un peu l'histoire de cette abbaye. Et donc, évidemment, j'ai travaillé aussi avec cette association pour écrire mon roman, pour ne pas dire trop de bêtises. Parce que même si c'est un roman, il faut que ce soit quand même... crédible.
Et alors, une fois qu'il a fait son travail, quoi, il fait connaissance, d'ailleurs, il fait la connaissance, comme vous l'avez dit, des frères Géraud, nommé aussi Gobert.
Le frère Géraud, il faut savoir que c'est un parent de Dame Bathilde. Donc, il va faire la connaissance aussi. Alors, un moine qui n'est pas un moine, c'est
un convert.
Qui s'appelle Gobert. Et il va se faire ami avec ce Gobert. Et puis, il va leur arriver quelques aventures. Malheureusement, quelques mésaventures.
Oui, il va faire connaissance aussi avec un jeune qui s'appelle Renard aussi. Un jeune Renard.
Alors là, le jeune Renard, lui, il travaille dans l'entreprise de Bathilde. Donc voilà, ça tourne beaucoup autour de ces trois personnages.
Et il y a un autre personnage qui est intéressant aussi, mais qui ne vit pas partie de l'abbaye, mais elle, qui travaillait chez le fameux Gonzague, Margot aussi. Parce que vous insistez beaucoup aussi sur le rôle.
C'est la chambrière du fameux capitoule Gonzague, qui Margot. Est accusé d'avoir facilité l'assassinat du mari Bathilde. Donc Margot, pour essayer de rentrer dans la maison plus facilement et pour ne pas faire comme la première fois où ils avaient carrément cambriolé en éliminant plus ou moins les valets, lui, il essaye de rentrer en courtisant cette Margot. Donc il n'a pas de mal, parce que c'est comme lui disait au début, c'est un beau garçon, il a 18 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, 18 ans quand même, on était adulte. Il n'y avait pas d'adolescence à cette époque-là. On passait de l'enfance à l'âge adulte direct, il n'y avait pas d'adolescence. Donc à 18 ans, c'était quand même un homme, mais il était très beau. Donc Margot, il a eu facilement...
et sa relation avec Madame Bathilde, parce qu'ils doivent se marier normalement.
Alors, le problème, c'est que Madame Bathilde, elle se rend compte que le garçon aussi, oui. il est très intéressant. Elle, c'est une femme qui pourrait presque être sa mère. Oui. Tu sais, c'est une femme qui, à l'époque, elle doit avoir dans les 35 ans, quelque chose comme ça. Bon, pour aujourd'hui, c'est jeune, mais à l'époque, c'est déjà un âge... Mais elle a 35 ans, mais elle est quand même très, très jolie aussi comme femme. Oui. Elle est très belle. Et donc, entre les deux, il va se passer quand même quelque chose.
Il va se passer quelque chose, oui. Donc, cette abbaye revient. Est-ce que, ensuite, comment ça se passe?
Alors, dans l'abbaye, il perd pas quand même son instinct de voleur, puisqu'il a entendu parler de ce fameux trésor.
Eh oui.
Et quand il est lors d'une mission à l'abbaye, il arrive à voler une croix en ivoire avec un gros diamant au milieu. Enfin, bon, il croit que c'est un gros diamant. Donc, il vole cette croix et voilà. Donc, il a franchi un pas qu'il fallait pas franchir. Et bon, le problème, c'est que ça va pas lui servir vraiment. Ça va lui entraîner tout un tas de soucis et d'ennuis, cette croix. Et voilà.
Il va s'en servir pour certaines choses,
notamment parce que là aussi, son ami Gobert, il va avoir des ennuis. Il leur accompagne à Toulouse, il va avoir des ennuis avec la pègre de Toulouse. Donc il va se servir de la croix pour le libérer. Voilà. Mais bon, c'est... À un moment donné, là, il est quand même obligé de reconnaître qu'il a volé cette croix à un des moines de l'abbaye. Et d'ailleurs, l'abbé le pense aussi, parce que la croix, ils se sont aperçus qu'elle avait disparu. Et l'abbé, d'ailleurs, il lui montre que les voleurs dans cette abbaye, bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas très tendres non plus, les moines. Alors on retrouve ça dans un bouquin de Ken Follett, d'ailleurs, où il démontre comment on pouvait écorcher un homme vivant. Mmh. Donc ils écorchaient l'homme entièrement, ils lui enlevaient la peau comme un lapin, et ils gardaient la peau entière. Donc l'abbé lui montre dans un coffre une peau d'un homme qui a été écorché vif, qui avait volé l'abbaye. Voilà.
Bon, et malheureusement, je crois que nous arrivons bientôt. Là. J'ai d'autres questions à vous poser, mais pas uniquement sur le livre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez, comme on l'avait dit au début, les vêtements que portaient les...
Oui, voilà. Oui.
Ah oui, moi, intéressant.
Alors, on me reproche.
Non, au contraire.
Moi, j'ai toujours été un admirateur d'Émile Zola, même quand j'étais enfant. Je lisais Émile Zola. Donc, j'aime bien les descriptions détaillées.
On a détaillé.
Par contre, on me dit que mes livres ressemblent à un scénario de film. On pourrait faire un film en appliquant les chapitres.
Oui, oui.
Et c'est vrai que moi, pour écrire un roman, il faut que je le visualise. Il faut que je le vois, comme si je regardais un film.
Et je
décris ce que je vois.
On s'y croit vraiment.
Il y a des gens qui raisonnent avec des mots ou des chiffres. Moi, c'est avec des images.
Les vêtements, la vie à l'abbaye aussi. Voilà. Vous décrivez un peu la vie, comment se passe la vie à l'abbaye.
Les odeurs, les...
Tout. Voilà.
J'essaye vraiment de rentrer dans la peau des personnages et de l'époque.
La vie chez Dame Bathilde, comment se passe Donc c'est tout à fait passionnant.
C'est très intéressant. Moi, je rêve toujours de la machine à remonter le temps pour voir comment c'était à ces époques-là. Et donc, quand j'essaye de me mettre vraiment dans l'époque, vraiment montrer tout ce qu'il y a autour, comment ça marchait, et puis essayer de changer un peu quelques a priori qu'on a aussi. Quand on voit le Moyen-Âge dans les films où c'est tout gris, c'est tout noir, s'il y a de la neige, il fait froid, les gens ils crèvent. Bon, c'était dur la vie, mais c'était pas du tout comme ça. Les églises étaient peintes à l'extérieur, les statues elles étaient peintes, c'était peint à l'intérieur. Bon, il y avait des... Le climat, comme je disais au début, il n'était pas mauvais. Donc, c'était pas aussi noir que ce qu'on a... voulu le dire pour faire croire qu'aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Je pense que le XXe siècle, il ne restera pas comme un siècle très...
Plus, mais...
Voilà.
Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez un livre en préparation en ce moment?
Oui, parce que bah oui, je suis en train,
très prolixe.
Je suis en train d'en terminer un autre. Moi, tous les 18 mois à peu près, je saurai. Donc, je suis en train
De la même veine
je suis oui, c'est toujours historique.
Toujours historique
je suis tombé sur un document de la vie dans un hameau du côté de Grenade-sur-Garonne au moment de la guerre de religion, les débuts de la guerre des guerres de religion en 1561. Donc voilà, donc je me sers de ça aussi. Et puis là, je cherche un peu dans tous les sens. Donc je sais qu'il y a eu des massacres à Grenade-sur-Garonne. Il y a eu un massacre à Toulouse en 1562 entre les catholiques et les réformés. Donc c'est les catholiques qui ont massacré les réformés, d'ailleurs. Voilà.
Et il sera publié
peut-être l'été prochain.
L'été prochain. Et là, pour ce livre, vous faites des conférences, des salons du livre,
Je fais des salons et des dédicaces, oui. Non, les conférences, moi, ça m'est arrivé, mais c'est surtout des salons de livres, des salons du livre, un peu dans la région. Oui. Hein, je vais des fois assez loin. Et puis, des dédicaces dans les librairies et puis des fois dans les supermarchés. Il faut que la culture soit vraiment... Alors c'est marrant parce que les gens ils passent avec un chariot, avec des commissions, et ils m'achètent un livre quand même. c'est sympa.
Et ce livre, on peut le trouver dans les librairies toulousaines.
Ah oui, celui-là, on le trouve dans les librairies. Il est sorti au mois de juin, c'est pas vieux. Et on le trouve encore dans les supermarchés.
Très bien. Bon, mais je crois que nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. On aurait parlé pendant une demi-heure de plus. Malheureusement, il faut arrêter. Je rappelle bien sûr le titre du livre, le trésor de l'abbaye, dont le destin aventureux sous un sous-titre d'un voleur occitan, par Claude Ranoux, publié aux éditions Tédéo. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
J'espère qu'on se reverra pour
le prochain
livre.
Voilà, on se voit à peu près tous les 3 mois.
Voilà,
tous
pas
les,
le problème.
Tous les 3 ans, pardon.
Oui. C'est avec plaisir qu'on vous recevra.
Voilà, merci.
Je vous remercie et à très bientôt.
Merci,
au revoir. Au mois prochain.